Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Arpentaire, une émission du Zoom Écologie, tous les deuxièmes jeudis du mois, sur Radio Fréquence Paris Pluriel.
Bonne année à tous et à toutes.
Bonne année.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Radio Fréquence Paris Pluriel, il est 20h30 et cette semaine c'est le retour de l'équipe Arpentaire, comme dans tous les deuxièmes jeudis du mois. Ouais, bonne année, plein de bonnes choses, plein de victoires politiques dans ce monde qui s'assombrit. Louis est avec moi bien sûr cette semaine, excuse-moi. Et pour commencer cette nouvelle année, on va commencer un tout nouveau cycle d'émissions. Après le sabotage, on se lance dans le thème de l'écofascisme. Mais d'abord, on passe en revue l'actu. Et ce qui a marqué cette première semaine de l'année, eh ben ça passe parfaitement avec notre thème des trois prochaines émissions, puisque c'est bien sûr la mort de Jean-Marie Le Pen.
Et oui, Lisa, tout à fait. C'est donc la mort de Jean-Marie Le Pen. Et donc, salut à toutes et à tous. Moi, c'est Louis. Et donc, le mardi dernier, je suis allé voir les Strasbourgeois pour leur demander ce qu'ils pensaient de cet événement. Voilà, donc j'ai fait un petit micro-trottoir. On écoute tout de suite.
Tu viens de me dire que vous étiez en manif pour festoyer la mort de Jean-Marie Le Pen, c'est ça ?
C'est ça, ouais. Je pense que c'est une journée importante, que ça arrivera pas avant un moment, enfin qu'il va pas remourir en fait. Donc qu'il faut fêter d'une certaine manière. Et voilà, quoi. Il y avait beaucoup d'énergie à mettre dans la fête et c'était joyeux. Donc c'était cool et il n'y a pas plusieurs journées comme ça dans l'année, quoi.
Et du coup, la manif, elle a commencé. Enfin, c'était quoi le parcours un peu ?
Alors la manif, elle a commencé ici à Homme de Fer par un rassemblement autour d'un mannequin qu'on a brûlé pour c'était un mannequin qui désignait Jean-Marie Le Pen et du coup on a dansé autour, on a mis de la musique et on a célébré la mort de Jean-Marie Le Pen. On a affirmé qu'on était contre le Front National, enfin on a mis la jeunesse en vers le Front National, etc. Et voilà, c'était un moment joyeux et ça faisait du bien dans ce climat politique aussi hyper compliqué et où les bonnes nouvelles sont très très rares actuellement, donc c'était un moment de camaraderie et ça faisait du bien au cœur et à l'esprit, quoi.
Ouais, donc du coup, tu disais la fin de la manif, ça s'est mal passé un petit peu ?
Ouais, un petit peu mal passé. Les policiers ont quand même tiré, en fait, deux tirs de LBD avec des sommations vachement rapprochées. Enfin, on n'a pas trop eu le temps de se disperser alors qu'on était en train de le faire et qu'on avait dit qu'on le ferait dans le micro. Enfin, tous les policiers étaient au courant, quoi. Et je trouve que c'était pas hyper correct. Après, forcément, ils défendaient aussi d'un côté Jean-Marie Le Pen, qui doivent admirer d'une certaine manière, je pense. Enfin, olé. Mais ce n'est que mon avis. C'est un peu dommage parce que c'était une manifestation pacifique et c'était la fête, donc ça aurait été bien qu'on nous laisse tranquille dans ce moment-là, surtout que on n'a vraiment pas fait escalader les choses, quoi.
Salut.
Salut.
Du coup, est-ce que vous avez festoyé ce soir en apprenant la mort de Jean-Marie Le Pen ?
Oui, non, en fait, on est là pour l'anniversaire d'un pote. Moi, perso, je m'en branle qu'il soit mort ou pas, parce que ça change rien à ma vie et ça change rien à l'histoire. Voilà, parce qu'il est mort,
c'est
en tous les cas. Dans tous les cas, que ce soit mort ou pas, on s'en battait les couilles, ça change rien, mais c'est marrant que les gens en fait sa mort. Je trouve ça marrant. Voilà, je suis pas de droite, je suis ni de gauche, je m'en fous. Mais je trouve ça cool que les gens soient pas d'extrême droite et que les gens en fait sa mort, quoi.
Et vous avez vu un petit peu la manif, parce que on a.
Alors j'ai vu des photos, mais j'y étais pas, mais j'ai vu des photos et je trouvais ça très marrant.
Il y avait une manif ?
Oui, il y avait une manif.
Je rends pas au courant sur les actus.
Je montrerai après les photos, j'ai des potes qui étaient, j'ai vu des amis en story leurs photos. Mais ouais, je trouve ça marrant, moi. Moi, je trouve qu'il avait pas d'influence sur l'actualité ou quoi, parce qu'il était vieux, il avait pas d'influence, tu vois.
C'est
ce
ça,
qui
il
se
avait pas d'influence.
Je veux dire, le gars il était vieux, il a 90 ans.
Je sais même plus qu'il était
mort
quoi.
Vivant.
Honnêtement, j'ai appris qu'il était mort.
Je veux dire, qu'il soit mort vivant, ça change rien à l'actualité. Genre, le gars c'est pas Hitler, tu vois. Je veux dire, je suis désolé, mais je vais te dire des mots.
Oui,
forts,
mais il est pas très cool.
Voilà, ça change rien quoi. Tu vois, moi je suis pas extrême droite, mais je veux dire, dans mes proches, j'ai beaucoup de gens qui sont en mode ouais, c'est trop la fête, il est mort, je suis trop content, mais ça change quoi ta vie qu'il soit mort? Je veux dire, voilà.
Ouais, je sais pas, moi, peut-être que ça change que, du coup, Ordre Nouveau, l'antisémitisme, l'Algérie, les skinheads, le fascisme, tout ça, quoi, non, je sais pas.
ok, t'es content parce que le mec c'était, ok, le mec c'était une figure de l'extrême droite, il a fait des choses horribles,
t'es pas
d'accord, il était pas gentil, il a fait des choses horribles, le gars il mérite d'aller en enfer, d'accord.
Ouais, bah d'accord. Bon, là on est d'accord. Et ben du coup justement, c'est pour ça qu'on manifestait dans le centre de Strasbourg.
Ouais. Bah en fait, Strasbourg c'est une ville majoritairement de gauche, donc forcément les gens vont être contents.
Tout le monde est content.
Ouais, tout le monde est content.
Oui.
Mais pour moi, ça change rien à ma vie, qu'il soit mort ou pas, ça change rien. Le mec, il avait pas d'influence, c'est pas. Je suis désolé, mais c'est pas. Ça aurait été Marine Le Pen, d'accord, tu vois. Parce que Marine Le Pen, elle a de l'influence, elle est encore dans la politique.
Déjà, il fait encore la mort de Margaret Thatcher, je crois. C'est vraiment pas une blague, voilà, en plus, c'est vraiment les anniversaires de la
mort. D'accord, en fait, j'ai score de vidéo avec, okay, avec mon ami. Il m'a dit ça et moi j'ai poussé un cri d'exclamation, tu vois. Pourtant je suis pas vraiment politisé ou quoi que ce soit, mais ouais, genre, il m'a dit ça, j'étais ah ouais, bah,
c'est
tu vois, une bonne chose de fait, on va dire. Certes c'est un peu méchant de dire ça, faut pas souhaiter la mort de quelqu'un, mais tu connais ce mec franchement.
Ah ouais. Je coco ce mec franchement, tu coco ce mec franchement, vous coco ce mec franchement. Bref, on coco ce mec et on est franchement content qu'il soit dead. D'ailleurs, je me suis pas arrêté là, j'ai continué mon chemin en demandant coûte que coûte si les gens avaient célébré cet événement.
Est-ce que vous avez festoyé la mort de Jean-Marie Le Pen ?
Je me suis levé à 15h, j'ai vu 2-3 stories. J'étais en mode de, ok, genre c'est des galeries, il y avait des mèmes qui étaient partout, Ribozo, voilà, ça m'a fait rire un peu. J'ai liké 2-3 stories, après j'ai vu il y avait une fête à HDF. Mais nous, on a, enfin, j'ai pas pu trop y participer. Je sais que Théodore il y était. Mais...
Ouais, dis pas mon blase.
Ah, pardon.
Moi, du coup, genre, j'habite pas en France. Du coup, je suis content d'être là quand ça arrive.
Tu viens de
Je suis luxembourgeois.
Okay.
Et du coup, genre, je suis content que, genre, je me suis dit bon débarras. Après, festoyant pas non plus trop la mort de quelqu'un, mais franchement, bon débarras. Genre, on est content qu'ils soient plus là, ouais, franchement. Et ouais.
Vous avez vu passer un petit peu les manifs?
Bah, on était dedans, bien contents. Genre, on a brûlé plein de choses.
Non.
C'est pas surtout Théodore.
Mais ouais, bon débarras, genre, on est bien contents, frère. Genre, et maintenant que ces idées disparaissent aussi, franchement. Okay. Parce que là, genre, on fait beaucoup de pubs pour le gars aujourd'hui, ce qui est en soi, ouais, ok, c'est drôle, mais viens, on se concentre plus sur ce qu'il représentait, genre, de faire en sorte que ça disparaisse bien de notre monde, comme lui.
Du coup, c'est la mort de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous avez festoyé un petit peu aujourd'hui
Carrément, là, on est à notre cinquième tournée.
On a fait un dessin, si tu veux tout savoir, dans ce bar, si tu vois, dans le fond du mur, on a fait un dessin. Okay. Vas-y, est-ce que tu peux dire ce que t'as écrit?
Je me rappelle plus ce que j'ai écrit.
Ah oui, on en a fait trop, attends.
Attends, j'ai fait c'était quoi?
RIPJM.
Ah oui,
il y a gluten.
Campari gluten aussi.
Campari gluten, Campari gluten.
Après, on perd quand même un visage de la France, pas forcément le
monde. N'est-ce pas? Jeanne.
Non.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on vous micro-contrôle?
Nous, on est contents, ouais, parce que là, on a vu pas mal de gens joyeux et tout. Ouais. Vous avez vu la manif un petit peu?
Et on a vu des feux d'artifice, surtout.
Mais moi, je pense qu'il faudrait carrément un jour férié, là, aujourd'hui, non?
Ça pourrait se faire.
Le Jean-Marie week-end, quoi.
Alors ouais, là je suis tombé, comme vous l'entendez, sur un groupe assez, assez joyeux luron. Ouais, les gars ils sont partis dans des jeux de mots, j'ai rien suivi.
Est-ce que vous auriez un jeu de mots avec Margarita, là, en instant, tout de suite?
Je suis nul en jeu de mots,
Oh.
Sur Jean-Marie, tiens.
Ouais.
Bah, allez-y, je vous laisse, c'est vous.
Jean-Margarip.
Est-ce que vous avez un jeu de mots avec Margarita?
Ah, mince.
Moi j'en ai plein, les frères, j'en ai plein, je vous jure.
Non, je peux pas.
Ah.
Ce sera genre, faut que les auditeurs devinent de même. Je pense que c'est la meilleure chose à faire.
Bon, on les laissera deviner alors, ok.
C'est cool, c'est Margarine Le Pen.
Margarine. Jean Margaritable. Jean Margarit quoi? Jean Margarit quoi? Là, on
pas d'inspiration.
Non, en vrai, ça fait vraiment 2 heures qu'on est dessus. On a tellement tout dit qu'on n'en peut plus. Mais c'est pas une blague. Ça fait vraiment 2 heures qu'on est sur ce jeu de mots. Et voilà quoi.
Ok.
En tout cas, c'est comme ça qu'on fait l'année
2025
la mort de JM.
Bien, quoi.
Ouais, voilà, c'est vrai, ça commence bien. Ça commence bien.
Bon, enfin, pour faire un peu plus sérieux, j'ai osé leur demander ce qu'elles pensaient du coup de la potentielle instrumentalisation de cette mort, par exemple pour le Rassemblement National. Comment est-ce que tu vois du coup cette mort aussi pour le parti, enfin du Rassemblement National? Est-ce que tu penses qu'ils vont s'en servir pour encore se dédiaboliser, enfin pour se mettre à distance encore plus?
Je sais pas trop comment je vois la chose, je sais pas si c'est positif, là je suis un peu encore dans l'euphorie du truc, donc je sais pas si je peux avoir un avis pertinent. Moi je pense que dans tous les cas ils vont essayer d'en tirer quelque chose parce que c'est un parti qui est diabolique, voilà. Donc je vois pas comment ça peut être positif pour nous, Parce que justement ils vont essayer de se détacher de lui, et le fait qu'il soit mort, ça va peut-être le faire oublier, alors que les idéologies sont toujours les mêmes en fait. Voilà, donc moi je pense que c'est pas forcément positif pour ça, mais pour l'instant on célèbre déjà ce moment qu'on a attendu longtemps, enfin moi en tout cas je l'attends plus longtemps. Voilà, donc bon, on va voir, mais en tout cas faut qu'on continue la lutte anti-fasciste, et on a beaucoup de choses à faire actuellement, donc voilà, je sais pas.
Bah super, bah merci beaucoup, c'est un super témoignage. Merci. Parfait. À toi. Est-ce que vous pensez que le parti du Rassemblement National va essayer de s'adresser pour encore se distancer, de d'effacer un peu cette mémoire qui fait peut-être tâche, qui fait ombre dans le parti?
Malheureusement non, parce que j'ai vu Jordan Bardella qui lui rend hommage.
Ah merde.
Donc forcément non. Okay.
Parce que c'est pas très bon en marketing. Non, mais je suis désolé, faut être honnête, ils sont pas très bons en marketing.
Jordan Bardella qui est censé être représenter la jeunesse, bah, il lui rend hommage, donc forcément non, du coup. Petite tête des conneries, mais s'il lui rend hommage, c'est que non.
Bah, c'est ça.
Marine Le Pen, pour l'instant, c'est pas. N'a pas pris la parole là-dessus, d'après ce que je pense.
Elle devient quoi?
Je sais pas, mais.
Faudra lui demander, ouais. Bah oui, tiens, ça c'est vrai, ça. Bah, on aurait presque fini par oublier que Feu Jean-Marie avait une fille. Mais alors, Lisa, qu'est-ce qu'elle devient, Marine Le Pen?
Est-ce qu'elle surfe sur le cyclone à Mayotte pour faire de la propagande xénophobe?
Eh ben écoute, tu fais pas si bien dire. Aujourd'hui, on a appris que Marine Le Pen était sur une embarcation à Mayotte. Il y a eu un accident d'embarcation et il y a eu 10 blessés légers.
Elle est morte aussi.
On a failli faire une doublette, mais c'est pas le cas. Mais ouais, c'était pas loin.
C'est pas si un gars de merde là.
Voilà. Attends, mais c'est une vraie info genre. Ouais, genre aujourd'hui,
elle aurait pu décéder aussi.
Gars, voilà. Ça aurait été genre un mot qu'on triple de zinzin gros. Genre.
Ah, c'est double kill,
c'est fort.
Là,
c'est fort. Mais ça, par contre, tu vois, j'ai pas du tout vu. C'est pas ça. J'ai pas du tout entendu cette info que Marine Le Pen était sur un yacht de luxe.
Une petite barque.
Mais genre en mode petite.
Une petite barque qui s'est entrechoquée, voilà.
Culottée pour quelqu'un qui aime pas les gens en barque.
Ah, c'est vrai.
Voilà.
T'es en train de me dire que je Margaret Barque mal mon.
Jean-Marie Barque est mort.
Alors Jean-Marie Barque est peut-être pas mort, mais du coup on a reposé la question, car je suis un peu dur de la feuille, vous le savez, et donc on a reposé la question pour savoir si la mort de Jean-Marie Le Pen rimait avec donc Renaissance ou RN.
Ce serait bien qu'il renaisse et qu'il y ait un vrai parti de droite, quoi, pas juste un parti extrémiste, je sais pas quoi, que justement il puisse gommer l'image, c'est ce que Marine a toujours voulu. Après bon, moi... je m'en fous un peu, mais bon, ce serait bien pour eux quand même. Comme ça, il y a une vraie équité de parti, quoi. Il n'y a pas juste des gens qui sont un peu à gauche, un peu au centre, un peu à droite. Comme ça, t'as un vrai parti de droite, peut-être t'auras un vrai parti de gauche, on ne sait pas encore, mais voilà, tu connais.
Wow, ok, mais comment dire bon, même si Marine l'a toujours voulu, c'est peut-être pas une bonne raison, non? Bon, bah, on passe sur la confusion, hein, c'est le stress du micro-trottoir, évidemment. Non, c'est surtout que j'ai paniqué, donc j'ai fini par lui demander s'il était au courant des actes de torture de Jean-Marie Le Pen en Algérie.
Non, mais ça m'étonne pas vraiment, franchement, vu la tête du type, hein, tu sais qu'il a fait des erreurs, mais bon. J'ai envie de dire, c'est bien de savoir ça aussi, de voir ce qu'il a fait plutôt que ce qu'il a dit, quoi, parce qu'on le connaît pour pour parler comme un gros porc, mais au final il a aussi fait des crasses, c'est bien de savoir, je pense aussi.
Et on termine par un dernier micro-trottoir. Voilà, une dernière personne que j'ai embêtée, et puis on passe à la suite.
Salut. Je suis un micro-trottoir ce soir, et je voulais savoir, est-ce que du coup t'as festoyé un petit peu aujourd'hui pour la mort de Jean-Marie Le Pen?
Non, pas spécialement. J'ai pas eu trop le temps, mais.
Non, t'as pas fait quoi? Ça te fait quoi un peu comme...
Attends, faut que je réfléchisse.
Comme émotion un petit peu cette nouvelle-là. Est-ce que ça te fait ni chaud ni froid ou...
Bah, au moins, on se dit, c'est fait, quoi. Il fallait que ça soit fait dans le sens où il y a eu trop de choses dites et faites problématiques. Et à un moment, malgré son âge, ça change à rien. Et c'était tout le temps pareil. Donc là, au moins, c'est fait. Et puis, bah voilà. Après, c'est un parmi tant d'autres. Hein.
Ouais.
Mais...
Il y a qui d'autre encore à éliminer?
Éliminer, c'est un peu fort, mais on va dire naturellement, si ça se fait tout seul, bah voilà.
Genre là, imagine, il y a un escalier, il y a une marche en moins.
Qui tombe en premier?
Bardella.
Ok.
Et ben voilà, du coup, c'était le micro-trottoir à Strasbourg, et je remercie tous ceux et celles qui ont bien voulu participer à ce micro-trottoir.
Tiens, bah, en parlant du facho, sais-tu qui a dit en 1991 « Révélation pour beaucoup de gens, ce que l'on croyait être un trésor indestructible, inépuisable, est en train de se détériorer à une vitesse extrême. L'on voit se réduire les espaces forestiers dans le monde et, au fur et à mesure de la progression géométrique des populations, la Terre elle-même se désertifie à une grande vitesse. » Alors, Louis ?
Non, je sais pas.
Bon, je continue, tu vas voir, il y a des indices. Dans nos pays occidentaux, dont le génie propre était lié justement à la notion de conservation, d'embellissement et d'enrichissement, l'on a vu dans les dernières décennies, en particulier dans le domaine de l'agriculture, saccager et détruire l'œuvre de siècles et de millénaires de travail humain.
Oh, attends, ce serait pas Jean-Marie ?
Et c'est complètement Jean-Marie Le Pen. Et d'ailleurs, il conclut « La droite, c'est le mouvement écologique par essence, à tous les niveaux de la pensée et de l'action politique. » Et bim ! Bon, il dit pas pourquoi, mais en fait, en gros, il dit que la gauche, elle peut pas être écologiste puisqu'elle promeut le progrès. Bon, voilà l'argumentation. J'en profite pour faire une transition magnifique sur ma petite revue de presse du jour, puisque Reporter nous a fait un petit florilège des sorties de Jean-Marie Le Pen au sujet de l'écologie. Bon, il y a peu de surprises, il promeut un climato-scepticisme qui caresse son auditoire dans le sens du poil, ou alors une forme d'écofascisme, tiens, qui, comme notre thème de l'émission, qui valorise un mystérieux ordre naturel, le bon sens, le fameux, et le génie humain. Bon. Assez parlé du facho, passons aux autres actus écolos, choisis dans mes bons vieux médias de gauchias, la Sainte Trinité, Mediapart, Blast et Reporter. L'actu écolo du moment, mais encore c'est un peu passé sous le tapis, c'était la mobilisation des agriculteurs de la coordination rurale. Les différents cortèges qui devaient fondre sur la capitale et à Lyon pour bloquer les grands axes sont pour la plupart restés bloqués par les gendarmes et leurs hélicoptères. Et donc ces agriculteurs de la coordination rurale, ils voulaient faire valoir leurs revendications. Ce qu'ils annonçaient, c'était la suspension de la loi d'orientation agricole qui avait été votée à l'Assemblée au printemps dernier, mais suspendue par la dissolution et les remaniements gouvernementaux. Et c'est la loi qui avait fait suite à la grande mobilisation agricole de l'hiver dernier et qui n'était pas forcément une bonne nouvelle pour l'écologie d'ailleurs. Et pour Mediapart, cette nouvelle mobilisation, elle a été très annoncée, très médiatisée, mais finalement, elle a été suivie peu d'effets. Et c'était surtout une manière de, je cite, « préempter une fois de plus la colère agricole à peine terminée la trêve des confiseurs, alors que la campagne pour les élections des chambres d'agriculture commence officiellement le 7 janvier ». Le Monde rapporte à ce sujet plusieurs opérations escargots sur tout le territoire, ainsi que l'opposition des 200 tracteurs mobilisés contre le Mercosur. Alors la coordination rurale, elle sera quand même reçue par François Bayrou le 13 janvier prochain. Moi j'adore les articles scientifiques de Mediapart, ils sont rares mais ils sont vraiment passionnants. Récemment, l'article « Comment l'eau est venue à la Terre » nous présente les hypothèses les plus récentes concernant l'arrivée de l'eau sur la planète. Il y a une nouvelle théorie sur l'arrivée de cette eau, celle d'un bain interplanétaire dans la vapeur des glaces d'astéroïdes devenues gazeuses à la lumière du soleil. Et ce bain, il aurait duré 10 à 20 millions d'années. Comme quoi, les articles scientifiques, ça peut vite devenir de la poésie. Si vous n'avez pas Mediapart, je vous conseille de vous le faire offrir par un abonné. Des agriculteurs continuent de remplir la méga-bassine de Sainte-Soline malgré son interdiction par la justice.
Mais non.
Je pose ça là, il ne faut pas trop qu'on oublie trop longtemps pourquoi on est vénère. Voilà. Pour continuer d'emmerder les fachos, on va parler de colonialisme extractiviste, parce qu'il y a un excellent article, toujours sur Mediapart, de la part de Célia Izoard. Et ensuite on passera un petit temps à analyser l'écofascisme. On écoute donc Célia Izoard au Village de l'eau l'été dernier.
D'accord, donc je propose de passer la parole à Célia pour montrer que les violences là, que nous a décrites Juan sont loin d'être isolées et que en fait l'extractivisme et l'industrie minière sont intrinsèquement destructrices.
Juan Pablo, tu parlais de Glencore et comme c'est une entreprise européenne, il faut présenter un peu Glencore en deux mots pour dire que c'est la quatrième entreprise européenne en chiffre d'affaires. C'est une entreprise minière qui fait du charbon et d'autres métaux et qu'elle a été fondée par Mark Rich qui est un Américain et qui a été condamné par la justice américaine à 325 ans de prison pour une des plus grandes escroqueries de l'histoire des États-Unis. Et ensuite, il est allé fonder une entreprise minière basée en Suisse, qui donc se déploie dans le monde entier. C'est donc le capitalisme minier qui a pignon sur rue, qui est totalement structurant dans notre monde, et qui, en même temps, à des pratiques qui sont génocidaires et une conséquence génocidaire d'un bout à l'autre de la planète. C'est un bon exemple. J'espère dans mon exposé pouvoir aborder le fait que ce qu'on appelle la transition, que je vais essayer de décrire, a besoin du charbon. Puisque, en fait, dans les pays du Sud, le déploiement du capitalisme et sa poursuite fonctionnent par la force. Et dans les pays du Nord, ils fonctionnent par la persuasion, par le conditionnement et par la propagande. Avant tout. Surtout quand ils s'adressent aux classes moyennes. Et donc, nous, on doit faire tout un travail qui consiste à désillusionner, comprendre ce qui se joue derrière les mots qu'on nous rabâche à longueur de journée. Parce que c'est ça qui rend possible le reste. Et donc, par exemple, quand les classes dirigeantes nous parlent de transition, ce qu'elles veulent qu'on comprenne, c'est grâce à ce nouveau modèle dans lequel nous embarquons, grâce à nos nouveaux projets, on va sortir du charbon de Glencore en Colombie pour créer d'autres choses qui reposent sur des technologies innovantes et des solutions environnementales, etc. Et en fait, quand on regarde comment ça fonctionne réellement, ce qu'on voit, c'est un continuum, une prolongation assez parfaite au fil des siècles entre ce qu'on a appelé la civilisation, c'est-à-dire la colonisation des Amériques et du reste du monde ensuite, ce qu'on a appelé le progrès, c'est-à-dire la déclinaison de la civilisation au XVIIIe, XIXe siècle, et puis ensuite le développement, et puis ensuite, aujourd'hui, la transition. Je mets ces concepts bout à bout parce qu'ils font référence à chaque fois à des idéologies qui ont permis la poursuite du développement capitaliste. Et que dans sa dimension coloniale, ce développement repose sur l'extraction. L'extraction minière, l'extraction pétrolière, ça a été vraiment complètement structurant dans chacun de ces récits qui se poursuivent aujourd'hui avec la transition, qui repose sur l'extraction. Pour des raisons, je peux rappeler là rapidement, mais l'idée que les classes dirigeantes ont interprété l'impératif des accords de Paris, la réduction des gaz à effet de serre, comme étant une poursuite de la croissance et une nécessité de substitution énergétique. Donc, on serait censé laisser les fossiles pour utiliser des renouvelables, du nucléaire, qui repose en fait essentiellement sur l'extraction minière. Donc, il y a plusieurs manières de prendre le problème. La première chose qu'on peut dire, c'est que cette substitution ne fonctionne pas dans les faits, parce que en réalité, le boom minier dans lequel aujourd'hui on se trouve a besoin des fossiles et repose en fait sur le charbon, etc. J'en donnerai des exemples. Et l'autre chose, c'est que cette transition dans laquelle on est embarqué, c'est à la fois la nécessité de produire massivement des métaux pour des batteries, pour des photovoltaïques, pour tout câbler, pour tout électrifier, pour les éoliennes. Mais c'est aussi le maintien de la demande en métaux qui préexiste. Et cette demande en métaux, elle est déjà totalement insoutenable. C'est-à-dire que à la fois, il y a des projections qui existent, des gens qui ont fait des études un peu chiffrées. Pour électrifier le système énergétique au niveau mondial, il faudrait au moins multiplier la production de cuivre par 20, la production de lithium par 300. À chaque fois, c'est des dizaines de fois. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi continuer à produire des avions, évidemment. Il faut continuer à alimenter Airbus en métaux. Et on consomme des milliers de tonnes, enfin des centaines de milliers de tonnes par an. Il faut continuer à développer le big data, le numérique, et en fait ça c'est un gouffre énergétique et un gouffre en métaux. Et donc tout s'additionne, ce qui fait que le boom minier dans lequel on est aujourd'hui est vraiment sans précédent et démultiplie la violence qui préexistait et qui de toute façon était largement invisibilisée. Ah, je vais m'arrêter sur l'eau. Mais donc le contexte, c'est ça. Et finalement, ce qui est intéressant déjà à noter, c'est que ce qu'on appelle transition repose finalement tout autant que les phases précédentes, les histoires précédentes du capitalisme sur l'extraction minière. C'est-à-dire qu'on est dans une parfaite continuité. Et je pense qu'il faut s'interroger, enfin c'est ce que j'essaie de faire dans mon livre, sur l'affinité des peuples européens, de leurs élites, dans leur histoire, dans leur culture, avec ce rapport au sous-sol, qui est en fait très étrange. Même quand on va sur un site minier aujourd'hui, on ne peut... Enfin, si on fait un pas de recul, c'est très très étrange ce qu'on fait avec la matière. C'est pas seulement qu'on détruit tout, comme tu l'as expliqué, mais c'est aussi qu'on prend une montagne et qu'on la broie en farine. Et ensuite, on la transforme en quelque chose de liquide. Ce sont des pratiques qui est difficile de qualifier de rationnelles. Et donc, une fois qu'on a compris qu'en fait, cette soi-disant transition, elle ne résiste pas à une addition. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a absolument aucune possibilité qu'on ait une quelconque chance de lutter contre le réchauffement climatique en extrayant tous ces métaux. On est obligé de s'interroger sur pourquoi ce culte de l'artificialisation du monde par des matières issues du sous-sol, quel monde on fabrique avec ces matières issues du sous-sol, etc. Alors, cette transition ne fonctionne pas, parce qu'elle est additive, hein, Jean-Baptiste Ressos va bien montrer dans son travail. Elle ne fonctionne pas aussi, du point de vue du réchauffement climatique, ça ne fonctionne pas parce qu'elle présuppose l'idée qu'on pourrait décarboner le système minier. Et ça n'a pas de sens. On ne peut pas. On ne sait pas le faire. C'est écrit dans des rapports de la Banque mondiale ou de l'Agence internationale pour l'énergie qu'on va essayer de décarboner les mines. Et on ne peut qu'être perplexe devant la légèreté d'une telle idée. C'est-à-dire, oui, on va lancer partout sur la planète des projets miniers en espérant qu'on puisse décarboner les mines. Non, mais c'est incroyablement faux, en fait. J'ai jamais vu un site minier qui fonctionne avec des énergies renouvelables. Et pour cause, ça n'existe pas. Dans la Jassière, dans l'Allier, par exemple, il y a 3 usines qui sont prévues. Dans l'une d'elles, il y a un four pour calciner le minerai, et ce four en gaz, qui ne peut fonctionner qu'au gaz, qui font 1000 degrés, il consommerait autant d'énergie que la consommation domestique de 67 000 personnes. Et ça, c'est la vitrine de la mine pour la transition écologique. C'est-à-dire que c'est vraiment un endroit où les entreprises ont intérêt à mettre le paquet pour prouver cette idée. Donc ça ne fonctionne pas du tout. Il y a le fait que les quantités de métaux à fournir sont absurdes et qu'elles condamnent de fait la possibilité de lutter de toute façon contre le réchauffement climatique, puisque pour produire 30 ans de production de cobalt, ben, ça prend des décennies en fait, ça ne prend pas des mois ou des années. Et il y a évidemment la question de la violence sur laquelle repose tout ça, qui est ce qui rend en fait l'écologie complètement à repenser, parce que nous sommes prisonniers d'une écologie bourgeoise, technocratique, technosolutionniste et coloniale. Et la transition, c'est un projet colonial, de fait.
Et voilà, c'était Célia Izohar. On va passer maintenant à la tant attendue partie sur l'écofascisme. C'est parti pour une demi-heure d'émission faite par notre ami Mathieu, qui n'est pas là ce soir, mais qui nous a concocté, qui vous a concocté, un merveilleux montage.
Siamo tutti antifa. Siamo tutti antifa. Siamo tutti antifa. Siamo tutti antifa. Siamo tutti antifa.
L'extrême droite monte partout en Europe et dans le monde. Un bloc néofasciste s'affirme, pendant que le désastre écologique s'accélère. Deux crises, en apparence distinctes, mais qui parfois se croisent. Quels sont les liens historiques entre l'extrême droite et l'écologie? Peut-on imaginer que le fascisme de demain prenne la couleur verte? Que la catastrophe écologique serve non plus seulement de prétexte, mais de véritable projet politique autoritaire et raciste? C'est LE sujet de cette émission, la première d'une série consacrée à un phénomène relativement peu connu, mais de plus en plus traité en sciences sociales, l'écofascisme. Mais avant d'aller plus loin, revenons sur tout un ensemble de définitions. A priori, écologie et extrême droite sont incompatibles. À ce sujet, le Zetkin Collectif, collectif de chercheurs dont fait partie Andreas Malm, parle d'un fascisme fossile. Ce terme désigne les mouvements d'extrême droite qui, d'un côté, nient l'urgence climatique, rejettent les causes anthropiques du dérèglement, et de l'autre se font les ardents défenseurs des industries fossiles et des modes de production carbonés. Le refus de la transition écologique devient donc une position structurante, soutenue par un attachement profond aux industries traditionnelles polluantes. Des figures comme Donald Trump, avec son slogan « Drill, baby drill » ou Jair Bolsonaro, qui a facilité la déforestation de l'Amazonie pour favoriser l'agro-industrie et l'exploitation minière, incarnent parfaitement cette logique. L'écologie apparaît alors comme un angle mort du fascisme contemporain. Et pourtant, des formes marginales mais bien réelles d'appropriation des questions écologiques émergent dans certaines franges de l'extrême droite. Il s'agit d'une écologie réactionnaire enracinée, parfois conservatrice, qui s'appuie sur des valeurs traditionnelles de préservation du territoire et des communautés humaines face à la modernité. Avant d'aller plus loin sur ce qu'est l'écofascisme et ses origines historiques, il faut encore clarifier ce que l'écofascisme n'est pas ou ne sera pas dans ses différents épisodes. D'abord, il ne sera pas ce qu'il a souvent été, c'est-à-dire une critique externe, une accusation portée par les adversaires de l'écologie, qui perçoivent ses formes les plus radicales comme une menace pour les libertés individuelles et un glissement vers un régime autoritaire. Pour ces adversaires de l'écologie, l'écologie serait fondamentalement anti-humaniste, voire totalitaire. On pense ici au texte de Luc Ferry dans son livre « Le Nouvel Ordre écologique », rédigé en 1992. Dans ce bouquin, Luc Ferry écrit « L'écologie radicale, par sa remise en cause de la primauté de l'homme sur la nature, tombe dans une forme d'anti-humanisme où l'être humain devient une menace pour la planète. » Ces mots-là, ce sont typiquement des critiques qu'on va adresser à certains écologistes, aujourd'hui dans la sphère médiatique, qu'on va traiter d'écofascistes. On pense par exemple à Sandrine Rousseau ou à d'autres personnalités médiatiques. Ensuite, toujours sur ce que l'écofascisme ne sera pas, dans ces futurs épisodes, on pense à une critique interne qui est ici formulée plutôt par des penseurs écologistes eux-mêmes. C'est même comme ça que naît la notion d'écofascisme. Cette fois, l'écofascisme n'est pas vu comme une caricature de l'écologie, par ses adversaires, mais comme un risque réel d'autoritarisme, de dictature verte, pouvant émerger au sein des mouvements environnementaux. En 1973, André Gorz pose une question inquiétante. Socialisme ou écofascisme? Pour lui, face à l'épuisement des ressources et aux crises écologiques, deux voies se dessinent, soit une transformation sociale radicale et égalitaire, soit une gestion autoritaire et hiérarchique du désastre. En 1980, quelques années plus tard, Bernard Charbonneau, un pionnier de l'écologie politique en France, pousse cette réflexion encore plus loin, dans le livre « Le feu vert ». Il écrit « L'écofascisme a l'avenir pour lui ». Et il pourrait être aussi bien le fait d'un régime totalitaire de gauche que de droite sous la pression de la nécessité. Pour Charbonneau, donc, l'écofascisme n'est pas qu'une simple hypothèse théorique, c'est une tendance latente, prête à surgir à mesure que les crises écologiques s'aggravent. L'urgence écologique pourrait, selon lui, justifier des politiques autoritaires, et ce, indépendamment des clivages politiques traditionnels. Ces critiques internes sont importantes, car elles nous alertent. Si l'écologie perd de vue l'antifascisme et la lutte contre les rapports sociaux de domination, elle peut effectivement servir des projets autoritaires et réactionnaires. Cependant, elle ne s'intéresse pas directement à la recomposition du fascisme à travers le prisme de la catastrophe écologique. Aujourd'hui, l'idée est de parler de l'histoire de l'écofascisme français, pour en comprendre ses racines historiques. Nous parlerons donc en priorité de la nouvelle droite, au tournant des années 1980, avec Alain de Benoist, qui a créé le corpus idéologique qui fonde l'écofascisme contemporain. Néanmoins, avant de se lancer dans cette émission destinée à l'histoire de l'écofascisme, Revenons tout de même sur la définition que propose Antoine Dubiot, qui a écrit l'essai « Écofascisme » aux éditions Grévis en 2022.
L'idée du livre, c'était justement de proposer effectivement une définition restrictive pour sortir de l'insulte politique, pour qu'on essaye de voir en fait qu'est-ce qui se passe dans les rapports entre écologie et extrême droite, mais pas d'une manière uniquement dans le rejet, etc., mais de voir qu'il y a aussi d'autres types de d'appropriation de la question écologique à l'extrême droite. Parce que finalement, en fait, ce que ces usages disqualifiants du concept d'écofascisme, et puis seulement comme slogan, disons, masquent, en fait, c'est le fait que bah, y a effectivement à l'extrême droite une frange, certes très marginale, mais qui existe quand même, qui s'est saisi de la question écologique de manière assez sérieuse, qui a produit des théories, des ouvrages. Et en fait, c'est un peu ça que j'ai essayé de montrer, c'est cette appropriation-là, comment elle était nourrie, et pas uniquement d'ailleurs comment elle était nourrie uniquement du côté de l'extrême droite, mais aussi au sein des milieux écologistes en eux-mêmes, comment peut y avoir un certain nombre d'ambiguïtés, de discours qui peuvent nourrir une conception, si ce n'est fasciste, au moins fascisante de l'écologie. Donc ça, c'est ce que je fais à partir d'un double processus que j'essaie de mettre en évidence. Un processus, d'une part, d'écologisation du fascisme, qui se joue au sein de l'extrême droite en elle-même. Et donc là, ça désigne justement cette appropriation par l'extrême droite de la question écologique. Et de l'autre côté, un processus un petit peu en miroir, en tout cas les deux sont complémentaires, un processus de fascisation de l'écologie. Donc là, c'est au sein des mouvements écologistes, un certain nombre d'ambiguïtés sur un certain nombre de sujets, sur lesquels on va sûrement revenir, qui peuvent mener des personnes, à titre plutôt individuel, hein, pas trop à titre collectif, en tout cas c'est mon impression, se diriger vers une conception justement fascisante de l'écologie. Ce qui est important, c'est que ces deux processus, à mon avis, se nourrissent. C'est-à-dire que des ambiguïtés chez les écologistes, il y en a toujours un peu eu, en fait, sur un certain nombre de sujets. Et je pense qu'au sein d'un mouvement politique, de manière large, en fait, c'est normal qu'il n'y ait pas un consensus absolu sur absolument toutes les questions, mais qu'au contraire, il y ait des débats importants, et puis que les gens ne soient pas d'accord entre eux, qu'ils débattent, voilà. Et que ça peut mener parfois à des clarifications internes, et je pense que c'est fructueux, et que c'est la vie normale d'une mouvance politique. Mais à partir du moment où il y a une offre idéologique qui permet d'être un peu le réceptacle en fait des discours vraiment ambigus ou limite réactionnaires des fois au sein du mouvement écologiste, en fait c'est là qu'il y a un risque et c'est là que c'est les deux processus en fait d'écologisation du fascisme et de fascisation de l'écologie, à mon sens, se complètent et coexistent en fait.
Les écofascismes, en résumé, ce sont donc les recompositions idéologiques et militantes du bloc néofasciste dans le contexte de la catastrophe écologique. Pour le dire encore plus clairement, c'est l'extrême droite qui prend au sérieux le désastre écologique. Et cela en s'appuyant d'une part sur certains mots d'ordre écologistes pouvant être embrassés de façon réactionnaire, la décroissance et la surpopulation par exemple, et d'autre part sur des filiations historiques avec le mouvement Völkisch allemand, qui remonte au moins au début du XXe siècle, et sur un corpus idéologique fondé par la nouvelle droite en France à partir de la fin des années 1980. Nous y reviendrons plus précisément après un bref interlude musical, générique de Médine.
J'ai plus de la gueule quand je dis leur programme à voix haute. Ils écrivent leur discours de la main gauche, la droite est dans nos poches. Font des clins d'œil appuyés à la petite fille d'un bang. Si je vais à leur funérail, c'est pour m'assurer de leur mort. Œil pour œil, dent pour dent, on sera aveugle et édenté. Gigantesque la foule, en cagoule et éganté. Abat le Gotha, je suis le golem de Gotham. C'est le son des quotas et quantité d'antifa. J'pisse sur la fleur de lys, sur les faffes, les souverainistes, les pédérastes, pétainistes. J'pisse sur les racistes, sur les haineux maladifs qui jouent les asymptomatiques. Ceux qui chient sur les muslims, mes panthéoni Joséphine, qui mettent le vice en pratique, la vertu en théorie. Les puritains en public, mais les gros pervers dans la vie. Les nervis de la république, les juges, les sugar daddy. Les hommes politiques qui revendiquent jusqu'aux royalties de la Bible. J'suis ni le français moyen, ni le moyennement français. Comme dans un film coréen, j'attends la fin pour me venger. J'les compare même pas à des chiens, ils n'ont pas leur loyauté. Y'a que les Amérindiens qui peuvent se méfier de l'étranger. L'immigration c'est l'avenir, ça rapporte plus que ça coûte. S'ils ont sauté du navire, c'est sûrement pas pour faire la course. S'ils ont traversé la Manche, c'est sûrement pas pour faire la manche. Ils veulent qu'on quitte le pays, qu'on sorte les poubelles en partant. Si ces clowns ont mauvaise haleine, c'est qu'ils ont le cœur sur les lèvres. J'suis ni d'Alsace, ni de Lorraine, ni d'Allemagne, ni de Bohème. Qu'un enfant de colonisé, de Dakar jusqu'à Alger. Comme des millions d'étrangers, mais mon cœur vous ne l'aurez guère. Mon petit cœur restera français.
Revenons donc à notre émission sur les écofascismes et à ce premier épisode consacré à l'histoire et aux racines de ce phénomène. Alors d'où viennent ces idées ? Historiquement, les liens entre écologie et extrême droite sont ténus, comme on l'a rappelé. Pourtant, en remontant au début du XXe siècle, on voit émerger des courants qui préfigurent ces pensées écofascistes bien avant les années 1980. Pour Stéphane François et Antoine Dubiot, deux chercheurs spécialisés sur la question, l'écologie vert-brune ou l'écofascisme s'ancre dans deux traditions. La première, le malthusianisme, qui fait de la surpopulation l'ennemi numéro un de l'environnement. La deuxième, la pensée volkisch en Allemagne, qui lie le territoire à l'identité raciale. Prenons un instant pour revenir sur ces héritages. D'abord Malthus, je pense que la plupart d'entre vous, chers auditeurs, chères auditrices, le connaissez. Thomas Malthus, c'est un pasteur anglican du XVIIIe siècle qui s'inquiétait de la pauvreté en Angleterre. Son idée, c'est que la population croît plus vite que les ressources disponibles. Selon lui, il fallait donc limiter les naissances pour éviter la misère. À l'époque, ces solutions, elles étaient radicales. Retarder l'âge du mariage, limiter les enfants par famille et réduire les aides sociales qui favorisaient selon lui la natalité. Aujourd'hui, ce discours trouve un écho chez certains écofascistes qui dénoncent l'immigration comme cause de surpopulation et donc de catastrophe écologique. Un deuxième héritage, c'est donc le mouvement volkisch, direction l'Allemagne de la fin du 19e. Le volkisch, c'est une idéologie qui glorifie la race allemande et défend des thèses ésotériques. Le peuple, selon cette pensée, est enraciné dans un territoire qu'il faut préserver coûte que coûte. Pour creuser ce point, je vous propose d'écouter Chloé, militante écologiste, qui s'est penchée sur ces courants écofascistes et qui nous parle du mouvement volkisch dans un extrait du podcast « Avis de tempête ».
Pour caractériser un peu, du coup, c'est... On va dire que c'est un courant d'extrême droite qui a une histoire, en fait, et qui a une sorte de, qui a construit une sorte de corpus de textes, de références, d'imaginaire écofasciste. Donc je pense qu'on pourrait sûrement le retracer aussi avant, etc. Mais en tout cas, en Europe, moi, j'avais lu pas mal de choses sur, dans les années 30, ce qui se passait en Allemagne. Et en fait, pendant la naissance du nazisme, il y a... En tout cas, il y a quelque chose qu'on peut identifier comme un sort d'environnementalisme d'extrême droite très réactionnaire. En fait, très brièvement, dans les années 30, de ce que je comprends, il y a un déclin en Allemagne parce que c'est une Allemagne vaincue, parce qu'il y a beaucoup d'exodes ruraux, donc il y a beaucoup de nouvelles populations qui se retrouvent déracinées en ville. Il y a la bourgeoisie qui perd un peu de sa puissance économique parce qu'on est en pleine crise économique. Et il y a la jeunesse qui grandit dans un pays qui a connu une défaite. Donc il y a tout un sorte de sentiment de frustration et de perte d'origine, etc., de perte de repères. Et en fait, à ce moment-là, en Allemagne, il y a un courant qui s'appelle le courant volkisch. Et du coup, c'est un courant qui a ses associations étudiantes, ses locaux en ville, ses journaux et toutes ces références littéraires, etc., et qui, en fait, va gagner pas mal en importance et va être les premières assises du nazisme, en fait, en Allemagne. Donc, en fait, c'est pas mal dans les courants, dans les mouvements et dans les associations volkisch que l'idéologie d'Adolf Hitler va prendre. Et du coup, dans ce courant volkisch, y a pas mal de choses qui posent les bases de c'est quoi l'écofascisme, notamment du coup un rapport à la nature assez romantique, où on fantasme un peu un passé médiéval, donc il y a beaucoup de... On va prendre des images de familles traditionnelles rurales, il y a aussi cette idée de la supériorité du peuple allemand, enfin du peuple germanique, pardon, et du coup il y a un premier courant, enfin il y a une première chose très racialiste et suprémaciste là-dedans. Voilà, et donc en fait ça permet de comprendre qu'en fait l'écofascisme c'est pas un truc de 2021, c'est un truc qui a existé dans d'autres contextes de déstabilisation très forte et qui en fait a servi de base à ensuite le développement d'un nazisme qui après a été aussi hyper productiviste et tout, enfin voilà, et qui en fait a petit à petit marginalisé le courant volkisch et les arguments environnementalistes sont passés bien après les autres. Mais historiquement, il y a quand même des affinités entre les deux. Et en fait, de manière plus générale, il y a plein d'affinités entre l'extrême droite et la nature, de manière, en tant qu'idée. Parce que la nature, c'est aussi potentiellement quelque chose de figé, de conservateur, d'essentialisé. Et donc, en fait, ça peut servir tous les arguments d'une politique raciste, qui cherche à être anti-féministe et conservatrice.
Merci à Chloé pour cet éclairage sur le mouvement Volkisch. Ce courant, vous l'aurez compris, mêle l'identité, territoire et ésotérisme. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, le Volkisch appartient au passé et ne propose d'ailleurs pas à proprement dit une pensée écofasciste, puisqu'il ne met pas au cœur de son programme politique les questions environnementales. Il faut attendre les années 1980 en France pour voir émerger un courant idéologique qui pense réellement les questions environnementales depuis l'extrême droite. Ce courant, c'est la nouvelle droite. Alors qu'est-ce que la nouvelle droite ? Dès la fin des années 1960, la nouvelle droite n'a rien à voir avec la droite classique. On parle ici d'un courant intellectuel qui cherche à refonder la pensée de l'extrême droite en s'éloignant des discours réactionnaires traditionnels, pour privilégier une approche métapolitique. L'idée centrale, plutôt que de s'imposer par des victoires électorales, il s'agit d'influencer en profondeur les idées et les mentalités en réinvestissant les champs de la culture, de la philosophie et de l'histoire. L'un des organes clés de cette nouvelle droite, c'est le GRES, le Groupement de Recherche et d'Études pour la Civilisation Européenne, fondé en 1968. Inspiré par des penseurs comme Alain de Benoist, ce cercle s'intéresse à des thèmes comme l'identité, la décadence des civilisations et, progressivement, l'écologie. À partir du milieu des années 1980, un tournant s'opère donc. C'est le moment fondateur des idéologies écofascistes. Alors pourquoi ce virage vers l'écologie ? Pour la nouvelle droite, l'environnement devient un levier pour critiquer à la fois le libéralisme économique, perçu comme destructeur de la nature, et l'idée de progrès technologique sans limite, qualifiée de prométhéenne. L'écologie sert alors à défendre un enracinement dans le territoire, une préservation du milieu naturel, qui va de pair avec la défense des valeurs identitaires et traditionnelles. Je vous propose d'écouter Stéphane François, spécialiste de la Nouvelle Droite, qui a écrit l'ouvrage « Les Verts Bruns » en 2021, aux éditions Le Bord de l'Eau.
Alors, effectivement, là, chez les radicaux, il y a cette conscience-là, qu'il faut tourner le dos à nos sociétés consuméristes et productivistes. La Nouvelle Droite, dès le début des années 80, au moment où elle prend son tournant anti-moderne, avait des réflexions là-dessus. La Nouvelle Droite, au début des années 80, tapait sa société de consommation. Une décennie plus tard, Benoist mettait en avant le risque de peak oil et de la finitude du monde. Il avait écrit plusieurs articles sur l'écologie. Donc chez les radicaux, oui, il y a cette conscience qui est tout à fait présente. Cette nécessité de tourner le dos donc à ce modèle de société avec... En arrière-fond, en arrière-plan, un autre point qu'il ne faut pas oublier, notre modèle productiviste, c'est quoi ? C'est issu des Lumières. Donc derrière la critique des 30 Glorieuses, la société de consommation, du productivisme, il y a la critique du progressisme, il y a la critique des idées des Lumières. Les deux sont liés. Le fait que l'extrême droite aime beaucoup Heidegger et sa critique de la technique, c'est pas anodin.
Stéphane François nous dresse donc ce panorama sur la nouvelle droite et sa manière d'intégrer l'écologie, à travers une critique de la modernité. Cette pensée anti-moderne, on l'a vu, permet à ces courants de lier défense de la nature et rejet du progrès technique. Continuons à comprendre maintenant le rôle clé de la nouvelle droite dans la fondation du corpus écofasciste en diffusant l'interview d'Antoine Dubiot pour l'Institut La Boétie. Dans cette interview, Antoine Dubiot revient sur les revues et les magazines de la nouvelle droite et sur la traduction de textes étrangers, comme ceux issus de la Deep Ecology, par le courant d'Alain de Benoist.
Au sein essentiellement d'une mouvance en France qui s'appelle la Nouvelle Droite, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, le principal représentant de cette mouvance-là, c'est Alain de Benoist. Comme c'est des idéologues, ils ont un peu tous leur position propre, etc. Ils sont divisés à la fois sur le plan spirituel, sur le plan du type de projet politique qu'ils veulent défendre, il y a des étatistes, il y a des anti-étatistes, etc. Il y a un peu plein de choses différentes. Je précise qu'il y a des travaux très importants dès les années 90 qui sont produits sur cette mouvance-là, notamment de Pierre-André Taguieff, qui est maintenant une trajectoire politique un peu différente, mais qui en tout cas a fait une cartographie assez exhaustive de ce courant-là en 94. C'est une mouvance qui fonctionne à la base de revues notamment de revues. Alors il y a différents types de revues. Il y a des revues à destination du grand public qu'on peut trouver encore en kiosque. Il y a notamment une revue qui s'appelle la revue Élément, vous avez peut-être déjà entendu parler, que l'on trouve dans tous les kiosques, dans tous les relais, dans les gares, etc. Alors, c'est très diffusé. Et puis après, il y a des revues un peu plus intellectuelles qui vont essayer de travailler des sujets importants d'un point de vue idéologique. La revue la plus intellectuelle, c'est la revue qui s'appelle Nouvelle École. Et puis il y en a une au milieu qui s'appelle Crisis, qui est un peu un entre-deux. Et c'est dans ces revues-là que va s'opérer un travail autour de la question écologique. Parce qu'en fait, l'écologie, ce qu'elle permet pour ce courant de la nouvelle droite, c'est une unification d'un certain nombre d'éléments un peu éparpillés, ésotériques, anti-sciences, anti-modernes, en fait, qui vont se structurer autour d'un nouveau récit sur la question écologique. Il y a toujours cette tension au sein de l'extrême droite, entre une extrême droite scientifique, moderniste, etc., et une extrême droite plutôt traditionnaliste, enracinée. Et en fait, l'écologie, elle va permettre, à mon sens, de sortir de ce dualisme en fait, au sein de l'extrême droite, justement en prenant le parti de cette écologie anti-science, enfin de ce positionnement anti-science, anti-modernité. Ça, c'est un. Je pense ce côté, l'écologie comme unification d'un certain nombre d'éléments éparpillés à l'extrême droite, c'est vraiment quelque chose d'important qui permet de comprendre la cohérence de ce type de discours-là sur la question écologique. Je précise aussi que dans ces revues-là, il va aussi y avoir la traduction d'un certain nombre de travaux écologistes nord-américains et de courants qui maintenant sont assez connus même dans le reste de l'espace public. Mais par exemple, il y a un courant qui s'appelle l'écologie profonde. Vous avez déjà entendu parler de ce courant-là, qui est une approche de l'écologie très métaphysique. L'idée, c'est qu'il faudrait transformer notre rapport au monde, pas forcément les structures sociales, mais vraiment notre rapport individuel au monde, la manière dont on conçoit métaphysiquement le monde pour se connecter aux lieux, etc. Bon, dans le contexte nord-américain, c'est pas spécialement d'extrême droite, mais il se trouve qu'en France, c'est importé par ce courant de la nouvelle droite en premier.
Un grand merci à Antoine Dubuau pour cet éclairage qui nous permet de mieux comprendre comment ces idées écofascistes se sont diffusées et adaptées en France à travers les magazines de la nouvelle droite. Cette réflexion nous amène maintenant à l'idée centrale du mouvement écofasciste, pensée dès les années 1980 par la nouvelle droite elle-même, l'enracinement. L'enracinement, voilà un mot-clé qui traverse toute la pensée de la nouvelle droite et qui irrigue encore aujourd'hui les courants écofascistes. Mais qu'entend-on par enracinement ? Pour les penseurs de la nouvelle droite, l'enracinement, c'est d'abord un attachement profond à une terre, une culture, un territoire, perçu comme un héritage à protéger. Cette idée s'oppose frontalement à la mondialisation, aux migrations et à ce qu'ils appellent le déracinement des sociétés modernes. L'écologie devient alors un outil au service de cette vision. Il ne s'agit plus seulement de protéger l'environnement pour des raisons scientifiques ou climatiques, mais de défendre un milieu naturel parce qu'il est vu comme le prolongement d'une identité nationale ou ethnique. C'est ainsi que la défense des paysages, de la biodiversité locale ou encore de la paysannerie s'inscrit dans une logique identitaire. L'idée de nature n'est plus universelle, mais particulariste. On protège sa terre, son peuple, face à ce qui est perçu comme des menaces extérieures, des déracinements. Cette pensée trouve aujourd'hui des prolongements dans certains courants écofascistes qui réactivent cette obsession de l'enracinement pour justifier des discours anti-immigration ou anti-modernité. Mais ces idées ne sont pas restées figées, elles se diffusent, s'adaptent et circulent par divers canaux. Et c'est justement ce que nous explorerons la semaine prochaine. Nous reviendrons sur l'actualité des écofascismes, comment ces idées circulent aujourd'hui, quels sont les canaux de diffusion et quelles sont les principales organisations qui s'en emparent en France et ailleurs. Nous parlerons également du rapport à l'écologie du Rassemblement National et son lien ambivalent à ces écofascismes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine, j'espère que vous avez apprécié ce premier numéro sur les écofascismes, et je vous laisse avec le titre Ni oubli ni pardon du groupe Cutter et le Druide sans mêler. Ciao l'équipe!
Souviens-toi Madrid 2007 dans ses trams de métro. 11 novembre, date où combat Carlos Palomino. Frère de combat tué par un militaire facho. Arrêtez démocratie nationale, on était tout chaud.
Quatre camarades plantés par les héritiers de Franco. Alerta, alerta, antifascista, assassinato. La vengeance et la rage envahissent nos cœurs. Siempre estamos contigo, pollo.
Les coups de la matinée, nos frères et sœurs coups fatales.
Staline à Prague, Ivan à Moscou, mort de cette plus froide rafale.
Meilleur moment pour leur vie sous l'œil de l'État complice. Assassine Anastasia Pavlova, aidé par la police.
David César et 2000-3000 ans, 13 coups de couteau. Ton décès déclenche une émeute jusqu'au temps les eaux.
C'est en sortant de chez lui qu'est abattu Fyodor Filatov dans un concert antifa que s'écroule Alex Krylov.
Le meilleur hommage, c'est continuer le combat. Ni oubli, ni pardon devant les assassinats. Face aux abus de la police, face aux crimes fâchés. Jamais, non jamais, on baissera les bras, nos traînes n'est pas factice.
Le meilleur hommage, c'est continuer le combat. Ni oubli, ni pardon devant les assassinats. Face aux abus de la police, face aux crimes fâchés. Jamais, non jamais, on baissera les bras, notre traîne n'est pas factice. Joule se rencontre dans cette station, une lame de 15 cm perforant le cœur d'un père, laissant derrière lui ce qu'il a fait naître. Kodja Lukin pour son anniversaire est pris en tête. Coup de pierre sur la tête, coup mortel que les nazis fêtent. Au service de la bourgeoisie, attaque ceux qui aident les sans-abri. S'en prennent à Timur, Katia Rava et ses deux amis. Trop de morts encore pour Rodenko et Ryukin. 23 décès, 240 blessés, 2010 en Russie.
Retour en Italie, je débarque par les Drenato. Créateur du label Rinoise, sphère de lance antifascho. Reggae alternatif, en faire péter la sono. Antifax, il fait planter un coup de couteau dans le dos. Je ne partirai pas aussi vite que la balle que marquait l'or parçu. En pleine tête, en plein jour, à Moscou et en pleine rue. Défenseur des droits des opprimés et des invaincus. Malgré la répression, nous resterons toujours convaincus. Le meilleur hommage, c'est continuer le combat. Ni oubli, ni pardon devant les assassinats. Face aux abus de la police, face aux crimes fâchés. Jamais, non jamais, on baissera les bras, notre haine n'est pas factice.
Le meilleur hommage, c'est continuer le combat. Ni oubli, ni pardon devant les assassinats. Face aux abus de la police, face aux crimes fâchés. Jamais, non jamais, on baissera les bras, notre haine n'est pas factice.
Clément Méric est décédé après une violente bagarre avec des skinheads hier soir en plein Paris.
Un étudiant engagé, militant, antifasciste et proche de l'extrême gauche, il est décédé il y a quelques heures à l'hôpital.
À tous ceux et toutes celles qu'on a oubliées, ceux et celles que les brins ont et vont martyriser. Ziganes, hongrois humiliés, syndicalistes, colombiens tués, zapatistes persécutés, palestiniens enfermés, étrangers tout pays molestés, ethnies agressées, indépendantistes torturés, militants assassinés, peuples occupés, communautés exterminées, nos luttes, nos mémoires, nos textes vous sont dédiés. Ni oubli, ni pardon.
C'était l'émission de Mathieu sur l'écofascisme. Merci à lui. Merci à vous pour votre écoute. C'est la fin du Zoom Écologie. On vous souhaite encore une merveilleuse année 2025. Tu veux dire un mot?
Bah ouais, bonne année à vous. Et puis bah, on se retrouve le mois prochain hein, pour un nouvel épisode de l'Arpentaire. Hein.